Et bonjour Kevin Dufresne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, l'Allemagne en deuil au lendemain des inondations qui ont ravagé l'ouest du pays. 59 morts selon le dernier bilan et plus de 1000 personnes disparues. Nous serons en direct d'Euskirchen, une des communes les plus touchées du pays, dès le début de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Un argument de plus en faveur de la vaccination. 96% des personnes ayant développé une forme symptomatique du Covid ces derniers jours n'étaient pas vaccinées. Constat d'une étude de l'Adresse révélée par Olivier Véran. Dans ce journal encore, Éric Dupond-Moretti face à la Cour de justice de la République ce matin. Il pourrait être mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le Liban toujours plus enlisé dans la crise. Saad Hariri renonce à former un gouvernement. Et puis nous irons à Arles écouter Goran Bregovic qui a fait danser le public du Festival des Suds hier soir.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, un eurodéputé belge, Philippe Lamberts, co-président du groupe écologiste au Parlement européen pour évoquer le pacte vert de la Commission. On parlera aussi des inondations meurtrières en Belgique et surtout en Allemagne. Et puis à 8h20, si vous ne savez pas encore quoi faire pour les vacances, les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos, eux, ont déjà décollé ou pris leur billet. Direction l'espace, le nouveau tourisme spatial en question. Vous pourrez dialoguer avec nos invités en appelant le standard dès maintenant au 01 45 24 7000 ou encore des questions à poser sur l'appli France Inter.
France Inter. C'est une Allemagne sous le choc qui se réveille ce matin au lendemain des pluies diluviennes et des inondations qui ont dévasté tout l'ouest du pays. Le dernier bilan fait état de 59 morts et des centaines de personnes sont portées disparues. Ce qui fait dire à la chancelière Angela Merkel que l'étendue de la catastrophe ne sera connue que dans les prochains jours. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Kevin.
Vous êtes à Euskirchen, 57 000 habitants au sud de Cologne. L'Allemagne n'a pas connu telle catastrophe depuis la fin de la guerre, Sébastien.
Effectivement, et juste avant la tombée de la nuit encore, les secouristes ont retrouvé hier 3 nouveaux corps à proximité des 6 maisons emportées par les eaux. 3 victimes de plus, ce qui porte le bilan dans ce district à au moins 20 morts, avec le risque qu'il soit plus lourd encore. Des habitants cherchent toujours leurs proches disparus. La tâche est compliquée, la ville est coupée du monde, privée d'électricité et aussi de téléphone. Et la police demande aux habitants des vidéos, des photos susceptibles de fournir des indices au sujet des proches dont ils sont sans nouvelles. Les habitants qui restent sidérés, hébétés, sonnés encore par la violence du déluge de pluie qui s'est abattu en quelques heures sur leur ville. Anna, une puéricultrice de 22 ans, s'est réfugiée à l'étage pour échapper à l'eau.
En un rien de temps, l'eau est montée de presque 2 mètres. Elle a rempli notre cave et notre appartement. Elle a emporté les voitures. J'étais toute seule à la maison, sans téléphone, sans électricité. On ne pouvait même pas appeler la police ou les pompiers.
Et Sébastien, sur place, le travail des secours se poursuit ce matin.
Oui, 15 000 policiers, pompiers, militaires sont toujours à pied d'œuvre. Ils ont évacué les sinistrés hier, parfois réfugiés sur les toits de leurs habitations, avec des bateaux, avec des hélicoptères. Partout, sur les murs des maisons, les devantures, les vitrines, il reste les stigmates de cette catastrophe, une marque noirâtre à 1,30 m au-dessus du sol et un dépôt de boue qui s'est glissé partout, que les habitants tentent désormais de nettoyer, comme Beiran, le photographe du centre-ville d'Euskirchen.
Vous voyez là, c'est mon studio. J'ai tout perdu. L'eau est montée jusqu'au plafond, à 2 mètres de hauteur. J'ai surtout récupéré ce que je pouvais emporter rapidement. Des passeports, des permis de conduire, des documents officiels. Le reste, mes appareils, ils sont perdus. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir maintenant.
Les inondations ont arraché les arbres, englouti les routes, les maisons, les caves, les magasins. Désormais, la décrue est amorcée. La pluie s'est au moins provisoirement arrêtée ce matin. L'eau commence à se retirer, mais il reste, vous l'avez entendu, beaucoup à faire.
Sébastien Baer, en direct d'Euskirchen, en Allemagne. Les inondations qui ont aussi frappé la Belgique, où la Meuse notamment est montée d'1,50 m par endroit. Au moins 9 morts et 4 disparus. À Liège, des milliers de personnes vivant au bord du fleuve ont dû être évacuées. Les dégâts en Belgique comme en Allemagne, c'est à voir en images sur franceinter.fr. En France aussi, il a beaucoup plu, mais pas de dégâts majeurs ni de victimes. 10 départements restent sous surveillance, vigilance orange pour risque de crue du Nord à l'Alsace.
7h04, le gouvernement multiplie les arguments en faveur de la vaccination contre la Covid.
Alors que la perspective du pass sanitaire élargi a fait bondir les réservations de créneaux, 3 millions de Français ont pris rendez-vous depuis l'allocution d'Emmanuel Macron. Eh bien, Olivier Véran a affirmé hier soir que la quasi-totalité des personnes ayant contracté une forme symptomatique du Covid la semaine dernière n'étaient pas vaccinées. 96%, très exactement, selon les données exposées par le ministre de la Santé, et qui s'appuie sur une note de la DRES, le service statistique de son ministère, et qui dresse le profil des personnes contaminées. Véronique Julia.
La note s'appuie sur le croisement très attendu des données de vaccination et de contamination durant la semaine du 28 juin au 4 juillet. À ce moment-là, 32% de la population était complètement vaccinée et la France comptait un peu plus de 2000 tests positifs par jour. Les non-vaccinés ont représenté 80% de ces tests et les patients entièrement vaccinés seulement 6%, 4% même si on ne compte parmi eux que les patients symptomatiques. On retombe ainsi sur le chiffre annoncé par Olivier Véran. 96% des cas symptomatiques étaient des patients dont la vaccination n'était pas complète. L'effet protecteur du vaccin apparaît donc clairement et cet effet ne semble pas différer selon le variant concerné. Les pourcentages observés sont sensiblement les mêmes, qu'on ait affaire ou pas à la mutation 452R du variant Delta. Attention toutefois, la note relève que les vaccinés se font moins tester, ce qui peut constituer un biais dans l'interprétation des données. Autre limite, on ne donne pas ici le pourcentage de vaccinés parmi les hospitalisés, mais Olivier Véran a indiqué mardi que 100% des patients récemment admis en réanimation n'étaient pas vaccinés, de même que 93% des admis en service de médecine.
Véronique Julia, a-t-il profité de sa position de ministre pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il était auparavant avocat? Question centrale à laquelle va devoir répondre ce matin Éric Dupond-Moretti, convoqué devant la Cour de justice de la République, qui enquête sur des soupçons de prise illégale d'intérêt. Un an après son entrée en fonction, le garde des Sceaux va subir un long interrogatoire. Il pourrait être mis en examen. Corinne Audouin.
Ça va être long car il va répondre à toutes les questions, indique l'entourage du ministre. L'atmosphère risque d'être électrique. Les trois magistrats qui vont interroger Éric Dupond-Moretti ont déjà perquisitionné son bureau le 1er juillet dernier. Dans une ambiance tendue, ils avaient exigé l'ouverture à la meuleuse de vieux coffres-forts, aspiré le contenu des téléphones du ministre et de ses collaborateurs, copié les disques durs des ordinateurs, mais pas celui d'Éric Dupond-Moretti, puisque le garde des Sceaux n'en utilise pas, avant de lui remettre en main propre sa convocation qu'il avait refusé de signer. Les juges cherchent à savoir si le ministre a utilisé ses prérogatives pour régler des comptes personnels. Pourquoi notamment a-t-il demandé une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier qui avaient épluché les fadettes de plusieurs avocats, dont les siennes? Même question pour la procédure disciplinaire diligentée contre un juge détaché à Monaco, alors que ce juge avait mis en examen un des clients d'Éric Dupond-Moretti. Sa défense l'assure. Le garde des Sceaux n'a fait que suivre l'avis de ses services sans jamais être animé par un désir de vengeance.
Corinne Audouin du service police-justice de France Inter. C'était il y a un an et demi, l'Express révélait le scandale du charnier du centre du don des corps de l'université Paris-Descartes. Des cadavres donnés à la science et conservés dans des conditions indignes. Le centre est depuis fermé. Quatre personnes sont mises en examen pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, dont l'ancien président de l'université et deux préparateurs de corps. Clémentine Vergniaud, vous avez pu consulter un procès-verbal consignant les déclarations d'un d'entre eux et qui révèle l'état d'esprit malsain qui régnait dans le centre.
À commencer par cette coutume en place quand le préparateur arrive dans les années 70. Les anciens m'ont fait cadeau d'un crâne, raconte-t-il au juge, expliquant que c'était habituel, une forme d'appropriation de ces corps donnés à la science. C'est d'ailleurs comme ça que cet homme de 77 ans justifie d'avoir stocké 8 crânes chez lui. J'avais travaillé dessus, je ne voulais pas que des collègues s'approprient mon travail. Le juge cite un témoin qui a tenté d'alerter sur ses mainmises. À chaque fois, on me répondait « c'est normal, le défunt a fait don de son corps ». Et puis, il y a la façon dont étaient traités ces corps. Le même témoin est cité. Il raconte avoir vu des personnes se donner des claques avec des bras démembrés. « On ne les reconstituait jamais », explique le préparateur pour qui c'était normal de mélanger plusieurs têtes ou plusieurs corps dans la même caisse pour optimiser la place. En revanche, il dément formellement avoir revendu des membres au Sceaux. « J'ai été sollicité, mais j'ai toujours refusé », affirme-t-il.
Clémentine Vergniaud. La suite du journal de Kevin Dufraîche et le Liban à nouveau dans l'impasse.
Saad Hariri jette l'éponge. Le Premier ministre désigné s'excuse de ne pas pouvoir former un gouvernement capable d'entamer les réformes anticorruption nécessaires pour débloquer les aides internationales dont le Liban a plus que besoin, enfoncé dans la crise politique, donc, mais aussi économique et sociale depuis l'explosion sur le port de Beyrouth il y a un an. Saad Hariri accuse le président Michel Aoun de vouloir nommer des ministres pour s'assurer d'une minorité de blocage au sein du gouvernement. France Inter à Beyrouth, Aurélien Colli.
Dans le camp du président Michel Aoun, on rejette les accusations lancées par Saad Hariri. Mais son retrait pousse encore un peu plus le Liban vers l'abîme. 9 mois de tergiversation et de bras de fer depuis sa nomination en octobre dernier. 9 mois pendant lesquels la situation du pays n'a cessé d'empirer. 9 mois perdus en définitive, alors qu'un Libanais sur deux est passé sous le seuil de pauvreté, que le pays connaît des pénuries d'essence, dépenses de médicaments et de denrées alimentaires, alors que la monnaie nationale a perdu plus de 90% de sa valeur. Hier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé l'incapacité totale des dirigeants libanais, qualifiant le retrait de Saad Hariri d'épisode dramatique, dramatique pour le Liban et pour les Libanais, alors que l'aide internationale est conditionnée à la formation d'un gouvernement capable de lancer des réformes. Un gouvernement réclamé par la France, les États-Unis et l'Union européenne, qui pourrait maintenant sanctionner les dirigeants qui paralysent le pays, ce que réclament depuis des mois nombre de Libanais, exaspérés par leur classe politique et épuisés par 2 ans de crise. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Retour en France et un train de nuit pas vraiment prévu pour les passagers d'un TGV Toulouse-Paris sont arrivés très tôt ce matin à Montparnasse avec 7h30 de retard, d'abord à cause d'un bagage abandonné, puis d'une panne électrique. Un autre train a été affecté. Enfin, si beaucoup de festivals sont en mal de public cet été, les Suds à Arles se portent bien. Le Festival des Musiques du Monde fait le plein, comme hier avec Goran Bregovic, qui a fait résonner la musique des Balkans dans le théâtre antique. Mathieu Culon.
Après avoir été l'un des rares festivals à proposer une édition l'année dernière, la 26e édition des Suds à Arles revient en force avec hier soir la fête proposée par Goran Bregovic, véritable concentré de l'esprit du festival, pour son patron Stéphane Krasniewski.
La musique de Goran Bregovic synthétise tout ce que l'on veut montrer. On a des voix bulgares qui sont d'une profondeur incroyable, on a les cuivres des Balkans, on a cette énergie rock. Voilà, on est là au cœur de notre propos. Il a rempli le théâtre antique. Et à chaque fois, le public est au rendez-vous, il est ravi de le retrouver.
Déjà venu en 1999 au Sud à Arles, Goran Bregovic fait l'un de ses premiers shows post-Covid, bien plus qu'un simple concert de musique.
Chez nous, quand c'est que la musique, c'est pas assez. Il faut un peu de la folie pour que la musique touche. Dans le concert, il y a toujours un petit miracle qui apparaît. Je vois toujours ce petit miracle avec mes musiciens.
Goran Bregovic qui invite tout le monde à se faire vacciner afin de retrouver une vie culturelle.
J'espère que les gens vont se vacciner, que ça va arrêter. Les histoires ridicules que les gens trouvent sur l'internet. Le Macron, il a fait une décision très courageuse. J'espère que les autres ils vont suivre.
La caravane gitane et balkanique a fait hier soir souffler un vent de liberté au sud à Arles, avec ce soir Leila Makala, Swan Massi ou encore Raoul Refrain.
Et vous avez reconnu la mélodie d'Inde Deskar, générique du film Arizona Dream d'Emir Kusturica, composée par Goran Bregovic. Les Suds à Arles, ça dure jusqu'à dimanche.
Merci beaucoup, Kevin Dufresne.